Chapitre 30. 2 octobre 1998, 13h17. Marc avançait dans le couloir sombre. Mathilde de Carville lui avait juste ouvert la porte, sans le raccompagner, le laissant seul avec ses doutes. La crise d'agoraphobie s'éloignait, petit à petit. Sa respiration reprenait un rythme normal. L'effet brûlant de l'infusion s'estompait également, comme si tout son corps se trouvait progressivement mieux ventilé. Marc aperçut sa figure hagarde dans le grand miroir ovale au fond du couloir. Il ne s'attarda pas. Juste 3 marches à descendre, pousser la lourde porte de chêne, fuir le plus vite possible. Les jambes de Marc le portaient à peine, ses pensées se bousculaient. Devait-il ouvrir cette enveloppe bleue, lire le résultat de ce test ADN, ou bien patienter de longues heures, attendre d'être à Dieppe? Mathilde de Carville cherchait peut-être à le piéger. 1 marche, 2 marches, 3 marches. L'air frais lui explosa au visage. Marc aspira de longues bouffées salvatrices, tout en cherchant à organiser ses pensées. Devant lui, pas une ombre ne bougeait dans le parc de la Roseraie. Le domaine lui faisait penser à l'ambiance morbide du parc d'une maison de retraite, ou d'un asile de fous. Marc marcha vers le portail. Sur sa gauche, derrière l'érable roux, il aperçut Léonce de Carville. L'infirme dormait seul, la tête tombée sur son épaule, abandonnée par Malvina au milieu de la pelouse. Les graviers roses bruissaient sous ses pas. Marc essaya de mettre de l'ordre dans ses idées. Il devait gérer 3 urgences, toutes liées à un crime, d'une façon ou d'une autre. Le meurtre de Grand-Duc, tout d'abord, quelques heures plus tôt. Tout portait à croire que c'était Malvina de Carville qui l'avait abattu. Le meurtre de son grand-père ensuite, car c'était bien un meurtre, cette asphyxie dans le camion, au Tréport, il y avait de cela 15 ans. Marc devait se rappeler d'un détail discordant dans le récit de Grand-Duc, ce souvenir rangé quelque part dans sa chambre d'enfance à Dieppe. Lily, enfin. Le voyage sans retour dont elle parlait. Une fuite? Une vengeance? Un suicide programmé? Ces 3 drames étaient-ils liés? Oui, sans aucun doute. En résoudre un, c'était résoudre les 2 autres. Le gravier bruissa à nouveau dans le dos de Marc.
« Tu vas où, Vitral ?»
Malvina. Marc se retourna. « Je me tire. Ta grand-mère m'a gentiment raconté tout ce que je voulais apprendre. »«
Oh, tu parles ! Tu n'as rien appris du tout. Malgré ses grands airs, mamie, elle radote. »
Marc soupira.
« Il n'y a que moi qui connaisse la vérité. » J'étais là-bas, en Turquie. Tous les autres sont morts dans l'avion sur le Mont Terrible. Pas moi. J'ai pris l'avion d'avant. Suis-moi, Vitral.
Marc regarda Malvina, incrédule.
Suis-moi, je te dis. Regarde, j'ai même plus de flingue. T'as dit tout à l'heure que c'était Lise Rose qui était vivante, que c'est Émilie Vitral qui avait cramé dans l'avion il y a 18 ans. Alors suis-moi.
Marc ne bougeait pas.
Allez, Vitral, viens avec moi. Ça va t'intéresser, je te dis.
Pourquoi pas, après tout? Excitée comme une gamine, Malvina remonta l'allée, ouvrit à nouveau la porte de chêne, traversa le couloir, puis monta l'escalier de merisier. Marc la suivait, intrigué. Arrivée au 1er étage, Malvina se retourna, posa un doigt devant sa bouche, chuchotant presque.
« À droite, c'est ma chambre. Te fais pas d'illusions, je te la montre pas. À gauche, par contre, c'est celle de Lise Rose. Suis-moi. »
Marc avança. Une nouvelle fois, en présence de Malvina, il ne ressentait aucun symptôme de danger, aucune annonce de crise. Malvina poussa la porte. Marc découvrit, stupéfait, une adorable chambre de petite fille. Rien ne manquait. Le petit lit profond, rose, recouvert de peluches. Les rideaux avec de grandes girafes imprimées dont le cou touchait le plafond et les pieds le plancher. Une serviette éponge orange posée sur une table allongée en chêne. Une armoire décorée de fleurs au ton pastel. Sur une étagère, des boîtes musicales, une veilleuse, d'autres peluches. Un éléphant bleu, un tigre, un lapin gris et blanc. Au sol, un immense tapis d'éveil, encombré d'autres jouets, des hochets, un petit éléphant, des clowns en chiffon. Marc n'avait qu'une envie, pressante, incontrôlable, sortir de cette maison de fous. Mais ses jambes ne répondaient plus. Comme si la voix de Malvina s'enroulait autour d'elle, tel un fil d'ange invisible.
Mamie a décoré cette chambre d'enfant il y a 18 ans, pour le retour de Turquie de Lise Rose. Depuis, on a continué à l'entretenir, au cas où Lise Rose reviendrait. Tu comprends ? Elle pouvait arriver n'importe quand.
Malvina se précipita avec agilité à l'intérieur de la chambre, enjambant les jouets. Elle ouvrit l'armoire. Les étagères débordaient d'habits, de robes de toutes tailles, de chapeaux, d'adorables petites chaussures. Un minuscule bonnet rose doublé de fourrure tomba sur le sol. Malvina se retourna vers Marc, espiègle, continuant de parler à voix basse, passionnée comme une fillette qui raconte l'histoire de sa maison de poupée à une grande personne.
« Maintenant, c'est moi qui range, qui fais le ménage. Je suis sûre que si je la laissais faire, mamie mettrait tout à la poubelle. Tu te rends compte? Tout mettre à la poubelle? Tu peux comprendre, toi? Je sais bien que Lise Rose est grande maintenant, mais tout de même, quand elle va revenir, découvrir sa chambre, ses jouets, ses habits, ça lui fera quelque chose, hein ?»
Marc recula un peu, sans toutefois sortir de la chambre. Un flot de sentiments contradictoires le submergeait.
« Dis, Vitral, tu regardes? Tu entres? Tu y tiens, oui ou non, à Lise Rose ?»
Marc progressa d'un pas malgré lui.
« Regarde, il y a même ses cadeaux !»
Marc sentit son malaise augmenter, si c'était encore possible. Il avait mis les pieds dans un mauvais conte de fées. Il conversait avec la céréale quilleuse du rayon jouet d'une grande surface pour enfants.
« Tu vois, Vitral, ce sont tous ces cadeaux d'anniversaire depuis que Lise Rose a un an. De Noël aussi. »
Malvina désigna à Marc des paquets emballés de toutes tailles, éparpillés dans la pièce, parfois empilés.
« Je pourrais tous te les citer par cœur. Le plus gros paquet, là, dans le lit, c'était le cadeau pour son premier Noël. » On avait été le chercher avec mamie, juste avant Noël, la veille de l'accident d'avion, aux Galeries Lafayette. J'avais 6 ans à l'époque. Je me rappelle encore des automates dans les vitrines.
Elle s'approcha de Marc et lui murmura à l'oreille.
« Tu devines ce que c'est ?»
Marc secoua la tête, partagée entre l'émotion et l'horreur.
« C'est un nounours, un immense nounours, plus gros qu'elle, orange et marron. Il s'appelle Banjo. » C'est moi qui ai trouvé le nom, Banjo. C'est son copain depuis toujours. Il l'attend, tu vois. Bouge pas, je vais te le présenter.
Marc passa la main devant ses yeux. Cette petite conne de Malvina allait finir par le faire pleurer avec ses délires. Malvina ouvrit avec délicatesse le grand carton et en extirpa un énorme ours en peluche au regard rêveur. Une fortune de tendresse. Malvina posa Banjo sur le lit, le cala entre deux coussins roses.
« Salut, Banjo !»
fit-elle enjouée.
« Je vais te faire une confidence. Tu ne vas bientôt plus être seule. Le grand jour approche. Tu vas pas me croire. Lise Rose va revenir. »
« La chambre de la Belle au bois dormant, » pensa Marc. Des peluches empaillées, des habits raidis dans l'attente du retour de l'enfant mort. Le musée de l'absence.
« Ensuite, dans les autres paquets, je ne te les fais pas tous. Il y a des poupées, bien sûr, des gros livres. Je sais qu'elle adore lire. Pour ses 10 ans, dans le carton là-bas, c'est un violon. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais le piano, on l'avait déjà. Après, c'était plus dur de choisir. Ce sont les plus petits paquets. Il y a des bijoux pour ses 13 ans là-bas, une montre aussi, des disques. Mais eux, ils doivent être un peu démodés maintenant, non ? Britney Spears, Ricky Martin, La Russo. Tout ça, tu vois le genre. Le gros paquet, là, pour ses 16 ans, c'est une mini chanifi. Et puis le dernier pour ses 18. L'enveloppe. Tu ne devines pas ?
Marc secoua encore la tête, incapable de prononcer le moindre mot.
Un voyage. Une pochette, tout compris dans une agence rue de Rivoli. Tu crois que c'est une bonne idée ? Tu crois que Lise Rose osera encore reprendre l'avion ?
Une tempête agitait le cerveau de Marc. Étrangler cette folle, ici, l'étouffer dans ses peluches, pour qu'elle se taise, pour qu'elle s'arrête. Malvina se pendit presque au cou de Marc.
Je vais t'avouer, mon cadeau préféré, ça reste le premier, le nounours, Banjo. Il est trop beau, hein ? Je vais te dire, au début, Banjo, je l'aimais tellement que j'étais un peu jalouse. Je voulais le garder pour moi, mais mamie n'était pas d'accord. Elle avait raison, remarque. Je suis certaine que Lise Rose l'adorera, elle aussi. Toi, t'en penses quoi ?
Marc regardait Malvina, cherchant quelle attitude adopter. Le lit d'enfant au drap rose clair avait la forme et la couleur d'une pierre tombale de granit. Une tombe d'enfant. Cette chambre était un caveau. Ces cadeaux, accumulés après années, des offrandes à un martyr. Dieu avait eu pitié de tant de détresse. Il avait fini par ressusciter l'enfant mort.
« Tu ne dis rien, hein, Vitral ? T'es drôlement épaté. Ça doit te faire chier, hein, maintenant, de te rendre compte de tout ce que Lise Rose a raté. J'imagine même pas les merdes qu'elle devait recevoir à Noël chez toi.
Au moins, la gifler, lui faire mal physiquement, une fois, puis fuir. Marc se retint.
Tiens, vite à l'approche, que je te montre un dernier truc.
Marc se préparait au pire. Malvina avança jusqu'à l'armoire, ouvrit un tiroir et sortit un livre de tissu rose, orné de fleurs et de pompons.
Le livre de naissance de Lise Rose? Tiens, tu peux le regarder, mais tu fais gaffe.
Marc, à contre-cœur, prit le livre de naissance, l'ouvrit, tourna les pages. Ses mains tremblaient. Une folie de plus. Mon prénom, Lise Rose. Mes autres prénoms, Véronique, Mathilde, Malvina. Mon papa, Alexandre. Ma maman, Véronique. Je suis né le 27 septembre 1980 à Istanbul, en Turquie. Suivaient ensuite d'autres détails, plus macabres les uns que les autres. Ma maison, une photo de la roseraie. Ma chambre. Un dessin de la pièce dans laquelle Marc se trouvait, un dessin d'enfant, sans doute réalisé par Malvina quand elle était enfant. Ma peluche préférée se nomme Banjo. Ma meilleure amie est ma sœur Malvina. Marc tournait les pages, éberlué. Il découvrait le fantôme d'une vie fantasmée, d'une présence avortée. Ma main, une empreinte de main à la peinture. De qui ? Ma couleur préférée, le bleu. Ce que j'adore faire, écouter de la musique. Les pages valsées sous les doigts de Marc. Mon premier anniversaire. Une photographie de Lily avait été découpée dans un magazine, Paris Match ou un autre, puis collée grossièrement au milieu de la famille Carville, qui déjeunait autour d'une table sur laquelle un gâteau avec des bougies, lui aussi découpé dans un journal, était posé. Mes premières vacances. La même photo de Lily était collée dans un champ, au milieu de gentianes en fleurs, dans un décor de montagne. Malvina posait à côté, dans le pré, radieuse. Elle avait 8 ans, et les tiges lui montaient jusqu'à la taille. Marc s'arrêta, incapable d'aller plus loin. Des frissons le parcouraient de la nuque jusqu'au crâne. Malvina dut s'en apercevoir. Elle lui arracha des mains le livre de naissance.
C'est bon, t'as vu? Je le range. Mathilde de Carville, par la fenêtre du salon, regarda Marc s'éloigner à grands pas dans l'allée. Il courait, pour ainsi dire. Cette petite garce de Malvina n'avait pas pu résister. Il avait fallu qu'elle lui montre la chambre, les jouets et le reste. Elle en avait oublié son grand-père, au milieu de la pelouse, comme une poussette qu'on laisse en plan, un vulgaire jouet qu'on laisse traîner au fond du jardin en automne et qu'on retrouve rouillé et moisi au printemps. « Bien fait pour lui !» siffla Mathilde de Carville pour elle-même. Elle vit Marc près du portail de la roseraie. Elle sourit. Il se précipitait chez sa grand-mère, à Dieppe, trop pressé d'ouvrir l'enveloppe, trop heureux pour désobéir. Il n'allait pas être déçu quand il lirait les résultats du test ADN, le pauvre petit Marc. Marc ouvrit le portail, disparut de sa vue, mangé par le feuillage des arbres du bois de Couvray et des propriétés voisines. Mathilde faisait les 100 pas dans la pièce silencieuse, pensive. Elle n'avait pas tout dit à Marc Vitral. Elle n'avait pas parlé de cet appel de grand-duc, de son ultime découverte, le soir de l'anniversaire, ce coup de téléphone qui changeait tout. Grand-duc prétendait avoir découvert la vérité. Une vérité différente, simplement en se penchant sur un journal vieux de 18 ans. Le doigt de Mathilde de Carville effleura une touche blanche du clavier du piano. Grand-duc avait-il bluffé? Elle aurait la réponse bientôt. Elle avait commandé à la secrétaire de direction, au siège de la compagnie de Carville, une photocopie de l'Est républicain du 23 décembre 1980. Elle l'aurait sans doute dans la soirée, si cette secrétaire était un minimum dégourdie. Elle avait demandé qu'on la lui fasse directement parvenir par porteur. Elle avait été claire, la fille n'avait pas bronché. Elle n'avait plus qu'à attendre quelques heures. À ce moment-là, elle saurait si Grand-Duc lui avait menti, si tout était vraiment terminé. Mathilde de Carville s'assit sur le tabouret devant le piano, posa les mains à plat devant elle. Elle n'avait pas joué depuis des années. Le piano était muet, inutile, infirme, comme tout le reste dans cette maison. Oui, dans quelques heures, tout serait terminé. Trois notes aiguës déchirèrent le silence. Do, fa, sol. Tout serait terminé, excepté pour Malvina. Quel que soit le contenu de ce journal, quel que soit ce que Grand-Duc avait découvert, ce que Marc Vitral lirait dans ce cahier ou dans cette enveloppe bleue, Lise Rose continuerait de vivre, toujours, dans l'imagination maladive de sa sœur, Malvina. Elle vivrait comme vit une poupée dans le regard d'une petite fille, sauf que cette petite fille dissimulait un Mauser L110 dans sa poussette et qu'elle était capable de tuer tous ceux qui, sur son chemin, lui diraient que dans son landau, elle ne promenait qu'un jouet mort, un cadavre de plastique froid.